Alors, je vais maintenant revenir sur la situation de Kaoutar Chtourou, dont on a déjà parlé dans cette émission et qu'on lit régulièrement dans l'Envolée, journal anticarcéral, et qui subit sans relâche l'acharnement de la paix. Je vais revenir un peu vite fait sur son histoire et ensuite parler de ce qui lui arrive en ce moment. Elle a été incarcérée en 2008, elle a été depuis baladée dans différentes prisons, à Fleury, à Versailles, à Fresnes, à Rennes. Aujourd'hui, elle est incarcérée à Réau. Elle a toujours combattu l'arbitraire de la paix, elle n'a jamais hésité à ouvrir sa gueule quand il fallait. Et cela malgré la répression pénitentiaire qui ne manquait pas de suivre. C'est elle notamment qui est une des personnes qui est à l'origine de la mise à pied de l'ancien directeur de la prison de Versailles, qui a été pris en flagrant délit d'abus de pouvoir et autres fautes graves. Et du coup, ce mec-là, il en a fait baver pendant des mois. Il a monté d'autres détenus contre elle. Il l'a enfermée en quartier disciplinaire. Enfin bon, il s'est bien acharné. Il l'a aussi envoyée en HP, d'où elle est sortie que grâce au soutien de ses proches. Mais du coup, ça, c'est un truc aussi que la paix lui fait payer depuis et que ça lui faisait vraiment pas, en fait, que ce truc-là, il avait marché, tout ça. Et du coup, elle est sortie de prison en mai 2012 pour normalement, du coup, prévu un an de bracelet, puis une autre année de conditionnel. Et elle a eu à peine le temps, en fait, de respirer loin des barbelés et de retrouver les siens, que les gendarmes sont venus la chercher pour l'incarcérer de nouveau. Donc au bout de 48 heures, quoi, prétextant une erreur administrative. En fait, elle n'aurait jamais dû sortir de prison, ou elle aurait dû attendre l'appel que le parquet du tribunal de Rennes avait lancé contre sa sortie sous bracelet. Donc voilà, c'est un peu ce que ça peut être aussi la violence pénitentiaire. C'est pas juste nécessairement des coups ou de la violence physique, mais c'est aussi la violence psychologique comme ce genre de choses, quoi. Te laisser sortir pendant 2 jours et puis en fait revenir te chercher. Non, en fait, c'est pas fini pour toi, quoi. Du coup, aujourd'hui, Kaoutar, elle est enfermée dans la prison de Réau. C'est une de ces nouvelles prisons aseptisées qui ont ouvert ces dernières années. Et du coup, la paix ne la lâche toujours pas, quoi. Elle continue de lui faire la misère. Kaoutar, elle souffre depuis cet été d'une paralysie faciale, dont l'origine, en fait, pour l'instant, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'est la suite d'un petit AVC qui n'a pas été détecté ou si c'est un effet secondaire des anxiolytiques qu'on lui fait gober depuis des mois. En tout cas, le médecin de la prison et ceux de l'hôpital dont dépend la prison, ils sont pas compétents pour ce genre de choses. Du coup, elle a fait une demande de permission de 12 heures pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste à l'extérieur. Et ça, du coup, ça doit être normalement examiné par la JAP, la juge d'application des peines, voir si elle est OK pour cette permission. Sauf que, bon, la JAP était en vacances, c'est donc la SPIP, normalement, qui doit s'occuper de ça. La SPIP, c'est donc les conseillers d'insertion et de probation. C'est les personnes qui sont censées, je le mets entre guillemets, pouvoir te faire sortir dans de bonnes conditions et te réinsérer dans la société. Donc c'est elle, normalement, qui devait s'occuper du dossier. Sauf qu'en fait, la veille du rendez-vous, il y a la SPIP qui appelle la prison pour dire que en fait, la JAP était rentrée de vacances et que sous prétexte qu'elle n'avait pas eu le temps d'étudier la convocation médicale, elle refuse la permission. Et donc voilà, un rendez-vous pris des mois à l'avance, l'annule du jour au lendemain. Donc ça, encore une fois, c'est les tergiversations administratives qui ont bon dos pour expliquer cet acharnement de la paix sur une détenue qui a eu l'audace de dénoncer le vrai visage du système carcéral. Et du coup, c'est un des trucs qui s'est passé dernièrement et c'est toujours pas fini parce que en septembre, Kaoutar, elle attendait l'examen d'une permission employeur pour du coup à sa sortie pouvoir avoir un contrat. Et lorsqu'il s'est passé un truc assez chelou, lors d'une promenade, elle se fait attaquer de façon inexplicable par une autre détenue avec qui elle avait jamais eu de conflit. Et elle se fait provoquer une fois, deux fois, et elle finit par répondre. Et au moment où elle se bat, il y a directement 3-4 matons qui débarquent de nulle part et qui les maîtrisent. Suite à ça, elle écope de 20 jours de mitard, ce qui est quand même assez énorme pour ce genre d'altercation. Et du même coup, ça fait aussi sauter sa permission employeur et reporter d'un mois sa demande de conditionnel. Du coup, ça sent clairement le coût monter en fait pour retarder au mieux sa libération et que ça soit de plus en plus loin, quoi, qu'elle n'en voie pas le bout. Et du coup, alors que, enfin, il y a un psychiatre du coup suite à ça qui a émis un avis défavorable à son placement au mitard du fait de sa santé, qu'elle pourrait pas supporter les 20 jours de mitard. Et du coup, là, c'est encore la paix qui fait preuve d'inventivité dans la violence psychologique. Donc, elle décide de mettre en place un système où Kaoutar ira 2 jours au mitard, 3 jours en cellule normale, 2 jours au mitard, etc., jusqu'à ce qu'elle ait son compte des 20 jours. Donc voilà, faudrait quand même pas que la paix perde la face, quoi. Donc on va tout faire pour lui en faire le plus baver. Du coup voilà, on est en solidarité avec Kaouta et on espère qu'elle tient coup face à ça et qu'elle perd pas de courage pour se battre. Vous pouvez trouver plus d'infos sur la situation de Kaouta et aussi lire certaines de ses lettres sur le site de l'Envolée, l'envolée.net. Et aussi dans le dernier numéro de l'Envolée, numéro 36. Si comme nous, tout ça vous inspire de la colère et de la rage, eh ben, faut pas hésiter à en faire part à la direction de la prison, de dire ce que vous en pensez. Vous pouvez du coup leur écrire à l'adresse suivante. Centre pénitentiaire du Sud francilien, Le Plessis Picard, Réau, 77 558, Moissy, Cramayel, Cedex. Et du coup, à l'intention de la directrice du centre pénitentiaire qui s'appelle Nadine Piquet, P-I-C-Q-U-E-T. Et faut surtout pas hésiter aussi à manifester votre soutien à Kaoutar en lui écrivant du coup à la même adresse. Et son nom de famille, c'est Chtourou, Kaoutar Chtourou, C-H-T-O-U-R-O-U. Du coup voilà, je vais maintenant enchaîner pour vous parler du dernier procès de Châteaudun, de la mutinerie de Châteaudun. C'est donc passé le 19 septembre au tribunal de grande instance de Chartres, où on a jugé 6 personnes pour la mutinerie du 20 août au centre de Châteaudun, où une trentaine de détenus se sont révoltés, montant sur les toits et incendiant le poste de surveillance. Les six sont accusés et de rébellion et pour 2 d'entre eux de dégradation. 2 semaines auparavant, il y a 2 groupes de 6 personnes, de 6 prisonniers qui avaient été accusés d'avoir participé à la rébellion, qui ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois. Donc ça laissait un peu sans surprise le résultat de ce procès. On trouve un compte-rendu assez détaillé de ce procès sur le site de l'Envolée, encore une fois, et qui décrit assez bien en fait ce que c'est en réalité les tribunaux, quoi. C'est un peu le spectacle de la justice, quoi. C'est du théâtre où chacun joue bien son rôle et où tout le monde connaît la fin, quoi. Du coup, ce qui décrit, c'est aussi la juge qui semble avoir déjà pris sa décision avant même que le procès commence, qui méprise ouvertement les détenus, qui les coupe sans cesse, qui tente de les piéger avec des questions biaisées. Les parties civiles, qui sont donc l'État et les matons, à qui on laisse tout leur temps pour parler sur la violence des détenus et sur la difficulté de leur métier, ou une surveillante qui parle comment elle a été traumatisée parce qu'une pierre l'aurait frôlée à ce moment-là, ce genre de choses habituelles. Le procureur qui, comme d'habitude, charge au maximum les prisonniers et qui, dans un grand plaidoyer, défend toute la profession de la répression. Les surveillants qui subissent aussi la détention toute leur carrière, comment c'est difficile, les ERIS qui en fait ne font que leur travail, etc., etc. Du coup, ils réclament le maximum pour les délits invoqués, soit 18 mois pour chacun. Ensuite, c'est au tour des avocats qui mettent en avant l'inégalité de traitement des données concernant l'enquête sur cette mutinerie, où en fait, les seuls témoignages sont ceux des matons, les prisonniers qui étaient témoins aux fenêtres, ils n'ont pas été entendus, les vidéos de l'intervention des ERIS qui n'ont jamais été visionnées, etc. Et aussi le fait que, légalement, les rébellions... Une rébellion, ça s'accompagne de gestes violents et du coup, ces rébellions-là, elles ne sont pas caractérisées du fait qu'il n'y ait aucun surveillant en fait, qui se soit plaint de coups de la part des détenus. Du coup, voilà, c'était la défense. Du coup, ils ont demandé la relaxe. Du coup, au final, les prisonniers ont pris entre 6 et 12 mois. Donc voilà, c'est un peu ce genre de petite peine que tu te chopes en détention quand tu décides de pas toujours baisser la tête et de renvoyer un peu son pareil à la paix, et qui, au fur et à mesure, cumulées les unes aux autres, rendent la détention toujours plus longue et la liberté toujours plus incertaine. Donc voilà, on est en solidarité avec les mutins. On leur souhaite du courage pour encaisser cette condamnation. Et du coup, on va maintenant vous passer un petit enregistrement d'un détenu qui était à la prison de Châteaudun au moment de la mutinerie, qui a été témoin de ça et qui est venu au procès en soutien du coup à ses camarades. On va écouter ça tout de suite.
Chartres, dans quelques minutes, va se tenir l'audience concernant les mutins de la révolte du 20 et 21 août à Châteaudun. Et là, il se trouve que tu es libre aujourd'hui et tu étais là au moment des faits. Tu es venu au tribunal pour, j'imagine, entendre et peut-être voir même témoigner, je ne sais pas.
Témoigner, il est trop tard. Je me suis fait connaître trop tard pour pouvoir témoigner. Donc je ne peux pas. Par contre, ce que je peux démontrer, c'est même point de vue local avec toute la presse et les différents avocats, le non-respect des droits qui se fait au centre de détention de Châteaudun.
Bon, toi, tu étais incarcéré au moment de la mutinerie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en sais, comment elle est partie et puis pourquoi surtout ?
En fin de compte, c'est parti, le non-respect des droits, tous les détenus en ont marre. Donc au centre de détention de Châteaudun, on ne respecte même pas les droits même de perme ou de sortie, d'aménagement, de tout ça. On est même sous-payé. J'ai été auxiliaire de maintenance en tant que peintre, donc payé par l'administration pénitentiaire normalement. Là, c'est une société privée qui me paye et me paye en dessous du taux légal. Au lieu de 160 euros, j'ai touché que 130 par mois. 30 euros.
Pour combien d'heures ?
131 heures.
D'accord. Donc c'est ce ras-le-bol, hein ? C'est-à-dire le fait de ne pas voir d'issue, d'espoir, pas voir quand c'est qu'on va sortir, pas voir l'aménagement des peines.
Pas vu non plus de permission de sortie. Moi, personnellement, aucun rapport disciplinaire, aucun avertissement. J'ai demandé une permission de sortie. Ça a été refusé. Pourquoi ? Manque de versement volontaire. Envers les parties civiles. Manque de versement volontaire, c'est la cause officielle. Donc ça veut dire si je paye pas les parties civiles, je peux pas sortir. Et moi, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Alors que le truc tout simple, hein, c'est je dois pas non plus 20 000 ou 30 000 euros. Là, il me reste 160 euros à régler aux parties civiles sur un total de 800.
Tu avais fait un effort, quoi, je veux dire.
Déjà, à la base, oui. Puis même, pour être condamné à 800 euros d'indemnisation sur l'ensemble des parties civiles, je ne suis pas non plus là pour viol, je ne suis pas là non plus pour...
Oui, puis même... Puis, ouais, ouais.
Voilà.
Mais même, tu étais au combien de quantum de ta peine quand tu as demandé une permission ? Tu étais dans les délais ?
Dans les délais. Dans les délais que m'a fourni ma CIP, dans les données, dans les délais légaux.
Donc c'est ça qui a causé le ras-le-bol ?
Ah bah il y a ça, il y a refus de perme parce que je manque de versement volontaire aux parties civiles, sous-paiement... J'ai été auxiliaire de maintenance, peintre. Résultat, sur 3 mois où je suis payé 132 euros par mois, il m'en manque 140, soit près d'un mois. Il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu manque de règlement intérieur ? Il n'y en a pas.
Donc du coup, l'administration fait ce qu'elle veut ?
Ah, c'est libre cours. C'est même pas le droit, c'est la dictature. Et même la dictature, je suis sûr qu'elle est plus clémente. Là, j'ai tous les papiers qu'il faut pour prouver.
Même... Et toi, tu as participé au mouvement ?
Non, j'ai assisté.
T'étais à ta fenêtre, en fait, c'est ça ?
Voilà. En premier plan, j'ai tout. Quand je voyais, par exemple, l'équipe d'Eris, à la base, 4 détenus sur un toit. Les mecs, à la fin, ils étaient assis, ils attendaient. Fallait les laisser. Tôt ou tard, ils redescendraient, hein, obligatoirement.
Et là, l'intervention, elle s'est passée comment ? Qu'est-ce que t'as vu ?
En force. Il y a même un détenu qui était à plat, les mains sur le ventre, les mains derrière la tête, les pieds levés, donc qui se rendait. Même lui, il a été matraqué. Les risques, l'avantage, c'est qu'eux, ils ont, comme ils disent, ils ont une cagoule. Donc on ne peut pas les reconnaître. Et là, c'est ce qu'on appelle le défouloir. Pour les surveillants, c'est le défouloir.
Et c'est ça, en fait, qui a fait que le lendemain, d'autres prisonniers ont décidé de se mutiner. c'est la violence aussi de la réaction pénitentiaire.
La réaction de l'administration pénitentiaire n'était pas appropriée à l'action de départ. Quatre détenus sur un toit, ça ne va pas chercher bien loin. Bon, d'accord, même nous, on est à la fenêtre, bon. Je dis pas qu'on criait victoire, mais voilà, on encourageait. Il n'y avait pas non plus menace du maintien de l'ordre ou autre. Hein. Tout le monde était dans sa cellule, pouvait pas bouger, quoi. Et là, pour 4 détenus, ils font venir, je crois que c'était une centaine d'héris. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Hein.
Ouais, c'est clair.
Disproportion.
Et du coup, toi, tu n'y as pas participé, mais tu te sens solidaire de cette réaction, de cette révolte?
Ah ben oui, mais ça c'est normal. À Châteaudun, on n'appelle pas ça Châteaudun, on appelle en tant que détenu, on surnomme ça Châteaudingue. C'est moi je vous dis, mes demandes de PERM, manquement de versement volontaire. Je touche 130 euros par mois. Vous voulez que je règle quoi au parti civil? C'est pas ma mauvaise foi. Mais entre la télé à 20 euros, le frigo à 10 euros, à la fin du mois, il me reste quoi? 100 euros? Combien? 25 euros par semaine. J'ai quoi, 25 euros? 3 paquets de tabac, 3 paquets de feuilles? Et un briquet. Je peux même pas continuer à manger. Et on me demande de verser au parti civil. Moi, je veux bien y mettre ma bonne foi, mais c'est pas pour rien qu'en 10 mois, j'ai perdu 10 kilos. Hein. Examen médical à l'appui. Entre l'entrée et la sortie, j'ai perdu 10 kilos.
Tu veux dire que la nourriture est vraiment dégueulasse? Le stress
Dégueulasse et improportionnel.
Il y en a pas assez.
C'est-à-dire que, pour se caler l'estomac, on nous file une baguette. Pour quelqu'un qui travaille à l'atelier, qui épluche des oignons toute la journée, qui commence à 8h, 8h15, 11h30, après ça recommence à 13h30, 16h30. Il fait ses 35 heures. Il y a quoi le soir à manger? 3 bouts de viande.
Il n'y a pas assez de calories, quoi.
Voilà. Et pourtant, il y a des nutritionnistes qui élaborent le menu. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Il y a du nutritionniste derrière. Hein. Je ne pouvais pas cantiner. J'ai mangé ce qu'on appelle la cantine. Hein. J'ai mangé la gamelle. J'ai perdu 10 kilos. Et encore, j'étais pas à l'atelier, j'étais en formation.
Et vous étiez au courant qu'il y avait eu une mutinerie avant à Blois et à Bourg-en-Bresse? Vous aviez suivi ces événements?
Je connais les raisons de Blois. Vous voyez, non-respect des droits. Moi, par exemple, ma CIP, conseillère d'insertion et de probation. Je vais demander la première perme, enquête d'hébergement. Je demande à ma CIP, elle me demande, je lui pose la question, c'en est où? Elle me répond, l'enquête d'hébergement est en cours, seule la JAP, au besoin, peut la relancer. Qu'est-ce que je fais? J'écris à la JAP. La JAP, elle me répond, aucune enquête d'hébergement vous concernant n'a été demandée. Hein? J'ai les papiers. Résultat, ma CIP, qui était à Châteaudun, elle était mutée à Blois.
Super pour eux.
Pas
cool,
la mutinerie. Parce qu'elle était mutée peu de temps avant la mutinerie de Blois. Déjà, l'enquête d'hébergement n'a pas été faite. Toutes mes permissions de sortie, ne serait-ce que pour un petit week-end, ça a été refusé.
Alors du coup, c'est plutôt intéressant comment tu décris, si tu veux, l'application des peines. Tu sais que du coup, Taubira, elle a envie de remettre tout ça au clair et qu'elle dit qu'il va y avoir des SPIP qui vont être... Qu'est-ce que t'en penses, toi?
J'en connais. J'ai vu ça, sa note. Parce que ça, c'est encore un autre dossier, ça. Par exemple, la télé, normalement, la télé devait être à 8 euros pour tous. En centre gestion déléguée, c'est-à-dire un centre privé, comme c'était à Châteaudun, comme ça l'est toujours... Au lieu de 8 euros, on paye 18 euros. Parce que normalement, l'État devait verser 10 euros à la société privée. Ils n'ont pas pu le faire, manquement de fonds. Moi, je la vois très très bien, Taubira. Elle met ça le matin, hein, parce que le soir même, devant le Conseil supérieur de la magistrature et toute la panoplie, les clics et les claques, elle annonce une hausse de budget de 4,3%, soit 86 millions d'euros. Alors que le prix des télés à 10 euros, enfin 8 euros pour
elle
tous.
Elle n'a même pas d'argent pour payer les télés, non.
Et ça représentait que 4 millions d'euros. Donc elle n'a pas les 4 millions, elle a pas les 4 millions le matin, mais elle en a 86 le soir.
Ah, c'est pas pour les mêmes choses, c'est pour construire des prisons, les 80, c'est
non,
ça?
Non, non. Les SPIP, 25 CIP. Mais par contre, ce qui a été le plus chiant, c'est le dégel des salaires. Donc c'est-à-dire que tous les surveillants, tous les membres du conseil, du ministère de la Justice, donc à la fois même les juges, ont eu leur salaire dégelé. Dès le 1er janvier, ils ont eu une augmentation de salaire, même en tant que fonctionnaire. Ça a servi à ça. Non, mais c'est voilà. Au détriment des détenus. Va-t-on m'expliquer?
Comment t'expliques que ça, quelque part, presque ça pète pas plus dans les prisons, tellement les conditions de détention, elles sont terribles et la promesse de sortie s'éloigne?
C'est sûr, justement, la direction Dijon, la direction interrégionale et Place Vendôme, ministère. c'est eux qui font en sorte. Eux, ils sont avec la politique de chiffres. Parce que même là, ça a changé encore de directeur. Ça va être encore une nouvelle politique de chiffres.
Tu veux rajouter un truc ?
Ouais, le titre. C'est au sein du ministère de la Justice qu'on respecte le moins la loi. Là, ouais. Ça, c'est la phrase.
Je te remercie.
Je t'en prie.
Cementerio donde vivo, donde me iban a llevar. Mamá ya habla con el juez que me dé la libertad. Yo no niego haber robado ni tampoco haber matado. Yo no tengo esa fe ni tampoco la tendré. En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré. Con un porrito en la mano, una rosa y un clavel.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute des Murs en des Oreilles sur Radio Kaléidoscope. On a pris beaucoup de retard dans notre planning. Alors, on va enchaîner. Alors, déjà, juste pour dire, la chanson qu'on vient d'entendre, c'est une chanson d'une chanteuse qui s'appelle La Choli et qui s'appelle Patio de Godella. Ça raconte l'histoire d'un prisonnier qui raconte sa vie en prison. Et donc, juste avant de terminer, on va vous donner un peu des nouvelles de Laurent. Donc, Laurent, si vous suivez un peu l'émission, vous en avez entendu parler régulièrement. C'est une personne avec qui on est en contact depuis longtemps. Et avec qui on n'avait plus de contact depuis plusieurs mois, puisqu'il avait été transféré en maison centrale et on n'avait pas sa nouvelle adresse. Et puis entre-temps, l'AP avait censuré notre courrier. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais du coup, juste pour dire qu'on est à nouveau en contact avec lui. Donc il a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur. Et apparemment, ça va mieux pour lui. Il est enfin sorti du régime d'isolement. Du coup, il est de retour en régime normal, on va dire. Et puis apparemment, ça se débloque aussi que... vous avez peut-être suivi qu'il a eu plein d'embrouilles avec l'administration pénitentiaire et que du coup, il a fait plein de procès, plein de recours auprès de toutes les institutions possibles et imaginables et que là, a priori, ça se débloque et qu'il a été entendu par le procureur dans plusieurs des affaires qu'il a intentées contre la paix. Et du coup, voilà, ça fait des choses où je pense pour lui, quand même, ça doit un peu le soulager de sortir de, comme il dit, de 27 mois de torture et de mauvais traitements. Même s'il est toujours en prison et qu'il va y rester pour un moment, je pense que ça change quand même un peu des trucs pour lui. En tout cas, voilà, on est très content d'avoir de ces nouvelles et puis on pense bien à lui et puis on continuera à vous tenir informés.
Et pour finir, je vais parler très très rapidement d'un guide qui vient de sortir, qui est donc le guide à l'usage des proches de personnes incarcérées, que peut-être on prendra plus le temps de présenter le mois prochain, parce que là on n'a vraiment pas le temps. Mais c'est pour dire donc que ce guide qui comprend un peu voilà, tous les trucs et astuces pour s'en sortir face à cette machine qui est la prison, est un guide qui est gratuit, qu'il est possible de trouver sur un site qui s'appelle permisdevisite.nolog.org. Donc je ne sais pas si c'est possible peut-être de retrouver les informations sur le Kaléidoscope, sur le site de Kaléidoscope.
Sur le blog de l'émission.
Sur le blog de l'émission. Et sinon, ils peuvent envoyer, les envois peuvent être gratuits aussi sur demande à donc Soledad et Associés ou Rémouleur, 106 rue Victor Hugo, 93 170 Bagnolet. Et sinon, si vous voulez le trouver, en fait, il y aura une soirée à la BAF de Chemin des Alpins à Grenoble, le 7 décembre à 18h30. Et donc, il y aura le guide et il sera présenté ainsi que, du coup, un espèce d'échange de comment se dépatouiller face à la prison. Voilà, c'est une publicité pas très bien faite et ultra express d'un super guide.
Voilà, du coup, il y aura toutes les infos sur le blog, donc je profite pour vous redonner les coordonnées du blog et de l'émission. Le blog, donc, c'est lesmursontdesoreilles.noblogs.org. Et si vous voulez nous contacter, c'est possible soit par mail, donc à l'adresse lesmurs@riseup.net, soit par courrier, donc c'est Les Murs en des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 418, Grenoble 38 048. Voilà, c'est tout pour cette émission. C'était un peu speed à la fin,
oui.
Mais en tout cas, on vous dit rendez-vous au mois prochain. Bon courage, à bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir.